RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean Lecroix.
Salut Louis Amar, bonjour à tous.
Ça fait plaisir de te retrouver, tout va bien?
Mais écoute, tout va très très bien, écoute, un peu frais, mais à part ça, tout va bien. D'ailleurs, c'est mieux pour le trophée Andro.
C'est mieux, absolument. À la une ce dimanche, un sextuple champion du monde et l'invité de Motors, Sébastien Ogier, sera avec nous une semaine après sa victoire sur le prestigieux Monte Carlo. Ça sera d'ici une vingtaine de minutes. Au programme également, le trophée Andro, tu l'as évoqué Jean-Luc, la finale, la grande finale, c'est la semaine prochaine au Stade de France. Aurélien Panis va y participer avec son père Olivier. Il sera ton invité Jean-Luc dans quelques instants. Et puis à 13h45, Radio Paddock, la F1 se prépare à la reprise à 15 jours des premiers essais hivernaux à Barcelone. Vous écoutez RMC, vous regardez RMC Sport News, bienvenue à toutes et à tous dans Motors.
RMC Motors, le tour de chauffe.
Lucas Vinoy est avec nous également, salut Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc, bonjour
salut
à
Lucas.
Tous.
Reporter RMC Sport, spécialiste sport mécanique, tu vas nous accompagner évidemment pendant une heure. Et on compte sur toi pour nous raconter l'ambiance au Monte Carlo la semaine dernière, puisque tu as couvert ce rallye pour RMC. Tu nous en parlera juste avant qu'on accueille notre invité Sébastien Ogier, ça sera donc dans une vingtaine de minutes. Avant cela, le trophée Andros, Jean-Luc, on va accueillir Olivier Panis, ton premier invité dans quelques instants, mais d'abord un mot sur cette tradition qui vient de loin, que celle du trophée Andros, et qui réchauffe, je sais pas si c'est le mot, nos longues journées d'hiver.
On peut dire ça comme ça, alors on va accueillir Olivier, je te reprends juste
un peu. Oui, Aurélien Panis, évidemment, ouais, pardon.
Aurélien, le fils, bien sûr. Il n'y a pas de problème, Olivier devrait pas être très loin, avec un peu de chance, on l'aura également d'ailleurs sur cette antenne et dans cette émission. Alors écoute, oui, le trophée Andros, c'est une idée, on peut dire une idée de génie qu'a eu Max Mamers à l'époque, il y a une bonne trentaine d'années. Ça vient combler, entre guillemets, évidemment, le manque de sport mécanique hivernaux. Donc c'est une épreuve qui se déroule sur des circuits de glace, normalement. Alors c'est évidemment très dépendant de la météo. Cette année, notamment la dernière épreuve, la Superbesse qui s'est déroulée hier, s'est très bien passée. Enfin même trop bien, j'allais dire, parce qu'effectivement la météo était glaciale. Il y avait beaucoup de tornades de neige qui ont gêné d'ailleurs parfois la visibilité des pilotes. Alors, c'est une épreuve fantastique et spectaculaire. Bon, je vais oser dire, Max va m'en vouloir, mais ça fait rien, que le côté sportif, finalement, est moindre par rapport au show glacé, au show mécanique, et ça, c'est extrêmement important. Il faut rappeler aussi qu'on s'est lancé dans le domaine de l'électrique, qui est très à la mode aujourd'hui depuis pas mal d'années, et ça, Max, ça va lui faire plaisir que je dise ça, parce qu'effectivement, c'est là, comme c'est un peu du rallycross, si tu veux, pour schématiser, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire que ça se déroule sur un tour de qualif, très court. Faut savoir que les pilotes roulent très peu, malheureusement, c'est un petit peu peut-être le reproche qu'on peut faire évidemment à l'épreuve, mais ça altère le circuit parce qu'il y a des clous naturellement sur ces pneumatiques qui donc fouillent le circuit, et souvent pour la finale ça se termine sur des plages de goudron et on peut rien y faire parce que malheureusement, malgré l'entretien et le travail qui est fait notamment par Claude Michi à Superbesse, et ben malheureusement les circuits se dégradent. Voilà, alors là tu as parlé de super finale, c'est le cas le 9 février, c'est-à-dire samedi prochain au Stade de France, on réunit tout le monde pour un grand show mécanique avec des stars extra. On va même voir Loeb venir prendre le volant d'une machine. On va voir Sébastien Ogier venir faire une démonstration. Et puis on appellera un certain nombre d'anciens champions. Pas tous, malheureusement. Mais bon, on sait que parfois aussi le trophée Andros a donné lieu à quelques conflits. Mais enfin, Yvan Muller, qui était le master de la glace, sera là. Lui qui l'a remporté 10 fois, si mon souvenir est exact.
Et c'est toujours extrêmement spectaculaire. Jean-Luc, on accueille ton premier invité. L'homme qui participera avec son père Olivier à la super finale la semaine prochaine, c'est Aurélien Panis qui est dans Motors ce midi. Bonjour Aurélien.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous.
Avec plaisir.
Jean-Luc, oui, il est à toi.
Salut Aurélien, bah écoute, je t'ai vu tout petit, donc effectivement, ça me fait plaisir de voir la deuxième génération. Je sais pas si je dois dire plaisir, parce que j'ai vu débuter ton papa aussi, tu vois, donc ça commence.
Oulala, oulala, non mais et attends, bah, mais qui n'as-tu pas vu débuter?
Non,
c'est ça la question.
C'est Jackie Stewart, il roulait avant moi.
Mais il y avait conflit, c'était pas loin.
Oui. Bon, on va redevenir sérieux. Aurélien, je suis ravi de t'accueillir, d'autant que c'était ta première saison, donc, dans le trophée Andros, et que tu t'es plutôt très très bien débrouillé. Tu étais en lice, on va dire pour la victoire jusqu'à un certain moment, avec une voiture électrique justement, je le disais, puisque les deuxième et troisième, en l'occurrence Franck Lagorce et toi-même, pilotaient des voitures électriques. Alors, bah, parle-nous de ton expérience sur la glace d'une part, et puis au volant d'une voiture électrique, comment tu as trouvé tout ça?
Ouais, c'est sûr que c'était une grande première pour moi, première année en catégorie Elite Pro. Écoute, c'était une superbe saison. Voilà, j'étais très heureux de faire partie de cette première mondiale affrontement électrique thermique, et ça s'est plutôt super super bien passé pour nous, donc c'était super.
Alors, c'est quand même une thermique qui gagne, hein. Tu sais que ça va me faire plaisir parce que moi, j'aime bien le rugissement des moteurs. Je pense que, allez, on est entre nous. Tu peux nous le dire. Toi aussi, probablement, et ton papa aussi, ton papa Olivier, qui partagera donc le volant de cette voiture avec toi au Stade de France. On en a parlé. Alors, est-ce que les conseils du papa, tu les as suivis ou pas trop?
Oui, c'est sûr. Mon père connaît ça en français, donc c'est sûr qu'il m'a pas mal aidé, il a donné pas mal de conseils. Et honnêtement, non, pour revenir sur la voiture électrique, c'était vraiment une super voiture. On a découvert cette saison super agréable à conduire. Et voilà, là, j'aurai la chance de la partager avec mon papa au Stade de France. Donc voilà, j'ai envie d'y être.
Aurélien, juste une question, parce que évidemment on comprend facilement la différence entre une voiture à moteur thermique et à moteur électrique. Dans la vie de tous les jours, ça se matérialise par le bruit, mais au volant et sur la glace, concrètement, qu'est-ce que ça change quand on est pilote, si vous deviez le verbaliser pour le grand public qui nous écoute?
Ouais, j'ai jamais eu la chance, malheureusement, d'essayer une voiture thermique sur le trophée Andros, mais ce qui est sûr, c'est que bon, ça se conduit... C'est très proche en style de pilotage de la thermique. Après, voilà, on n'a pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, donc on a juste, entre guillemets, à se concentrer sur le pilotage. Et c'est très sympa aussi. Après, c'est sûr que quand on rentre dans la voiture électrique pour la première fois, le bruit, il manque un peu de bruit, mais aussi très vite.
Bon, tu l'as dans la tête, le bruit, ou tu le fais tout seul. Ouais. il y a un autre inconvénient, on le sait, c'est que les voitures sont très lourdes, hein, naturellement, avec le poids des batteries. Donc je crois que c'est de l'ordre de 100 kg par rapport à une voiture technique. Hein, c'est bien ça, c'est 100 kg en plus.
Ouais, c'est ça, c'est un peu plus lourd que, malheureusement, ouais, avec les batteries qui sont très lourdes. On était aux 90 kilos au-dessus des thermiques, mais honnêtement, durant toute la saison, on s'est bataillé au 10e près, et l'équivalence était vraiment très bonne, mais non, ça a fait du beau spectacle, c'était sympa.
Alors, une autre petite question, enfin, il y en a plein, ce sont des voitures, j'imagine, que tu n'avais pas piloté avant, avec notamment les quatre roues directrices, hein. Ça aussi, c'est quand même quelque chose d'extrêmement particulier, on voit pas ça souvent en matière de sport mécanique.
Ouais, c'était une grande première pour moi. Voilà, j'avais fait le trophée Andros électrique et l'Enedis, là, sur les voitures propulsion, que j'avais gagné l'année dernière. Et là, cette année, c'est sûr que d'arriver à 4 rentrées, 4 directrices, voilà, il a fallu un temps d'adaptation. Mais non, c'était vraiment, voilà, un grand plaisir à conduire. Conduite sur glace, trophée Andros, c'est vraiment toujours super les participants.
Alors, ne bouge plus ou bouge un peu parce qu'on est en train de te perdre. C'est sûrement le blizzard, hein, parce que j'ai vu que vous avez dit blizzard, ça soufflait quand même très fort à super baisse ce week-end. Alors, on va dire que ce sont des conditions hivernales peut-être normales, mais finalement pas rencontrées très souvent pour le trophée Andros, puisque avec le redoux, comme on dit, le redoux général, parfois on termine sur le goudron, hein, c'est bien ça.
Oui, c'est ça, mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, il y a pas mal de stratégies au trophée Andros aussi. Quand c'est full glace, ben, il y a des stratégies différentes et on sait que souvent que ça arrive sur le goudron, mais ça fait partie du jeu et c'est ça qui est sympa et qui est pas facile aussi au trophée Andros. C'est que les conditions changent souvent.
Alors justement, pour s'imposer, enfin, tu as réussi, à monter sur le podium. Bon, j'imagine que t'es un petit peu aussi sur le coup de la déception parce que tu visais la deuxième place, hein. La première, elle était acquise à Jean-Baptiste Dubourg, qui est un spécialiste, c'est sa quatrième victoire dans le trophée Andros, mais tu visais la deuxième. Alors comment a fait ce vieux briscard de Franck Lagorce pour réussir à te shipper cette deuxième place?
Ouais, c'est sûr que Franck a beaucoup d'expérience maintenant au trophée Andros. C'est vrai qu'hier, j'étais un peu déçu d'avoir perdu cette deuxième place, mais honnêtement, après, en relativisant tout ça, c'était la première année en élite pro. J'étais déjà très heureux de pouvoir me battre pour le titre jusqu'à la dernière course. Et voilà, finir sur le podium pour une première année, je suis quand même super content.
Aurélien Panis est l'invité de Motors en direct sur RMC et sur RMC Sport News. Aurélien, on en parlait un petit peu tout à l'heure avec Jean-Luc. Pour nous, le trophée Andros, et je pense pour la majeure partie du public, c'est un show, c'est un spectacle. Mais est-ce que pour vous, c'est une vraie compétition automobile au même titre que pourrait l'être un autre championnat? Est-ce que concrètement, vous cherchez autant la gagne que le plaisir?
Oh, bien sûr, une fois qu'on met le casque sur la tête, c'est pour gagner. C'est vrai que c'est un super show, ça fait un super spectacle, mais nous, quand on est là en voiture, on va à tout prix le gagner. Et puis il y a vraiment de super, super bons pilotes sur le trophée. C'est une course qui est vraiment pas facile, ça joue à des détails et c'est ça qui est sympa.
Jean-Luc.
Alors, cette super finale, t'as de la chance, Aurélien, parce que c'est pas toutes les années, comme tu le sais, au Stade de France. Ça va être un magnifique show et je crois que c'est vraiment la première fois que tu vas partager le volant d'une voiture avec ton papa, Olivier. Alors, effectivement, là, il y a le bon on va commencer par là, le très très bon côté, j'imagine que c'est un plaisir pour tous les deux, et je salue chaleureusement Olivier. J'allais dire, bon, Olivier et Franck Lagorce, ils se connaissent bien, hein, puisqu'ils ont fait quasiment toute leur carrière en parallèle, donc je trouve que Franck aurait pu te laisser la deuxième place, quand même, c'était plus sympa par rapport par rapport à toi et par rapport à Olivier. Donc, plus sérieusement, vous allez partager la voiture, donc il va falloir trouver des réglages qui conviennent à tous les deux, etc. Alors, cette super finale, tu la prends comme une course comme les autres, c'est-à-dire tu vas vouloir la gagner, ou bien c'est quand même un show formidable avec, on espère, 20, 30 000 personnes autour.
Ouais, c'est sûr que ça va être un grand show, ça va être super sympa. C'est la première fois que je vais le faire, moi, au Stade de France. Mon père l'a déjà fait et l'a déjà gagné, je crois, avec Alain Prost. Donc non, je suis vraiment super heureux de partager la voiture avec mon père. Ça va être la première fois qu'on va partager une voiture ensemble. Et j'espère qu'on va bien performer, bien sûr, même si ça reste un show, on y va pour essayer de se battre devant et on verra comment ça va se passer. Là-bas, tout est possible au Stade de France, donc on verra bien.
Il y a aussi un cadre, un contexte particulier, Aurélien, parce que le Stade de France, c'est pas neutre quand même pour un pilote de se retrouver vraiment, c'est le cas de le dire, dans l'arène.
Ouais, c'est clair, ça va changer des stations de ski et ça va être super sympa de rouler devant des milliers de personnes. Et voilà, tous ceux qui l'ont fait m'ont dit que c'est un moment magique, donc je languis de le vivre.
C'est super, Aurélien, pour toi. On va parler du reste de ta saison ou de tes projets, peut-être pour 2019. Je crois, si je me rappelle bien, que tu as participé aux voitures de tourisme, hein, ce championnat de voitures de tourisme. Alors, il y a eu des bons moments, il y en a eu des moins bons, si je me rappelle bien. Parle-nous, est-ce que tu reconduis déjà en 2019? Est-ce que tu vas participer à ce championnat qui a changé de structure et de nom, hein, récemment?
Ouais, c'est en bonne voie. Ça devrait se faire. Je devrais continuer en WTCR pour une deuxième saison. Donc voilà, l'année dernière, c'était ma première année en championnat du monde. C'était pas facile au début, mais c'est bien fini. On se battait régulièrement dans les 10 premiers. Donc voilà, j'espère repartir pour une nouvelle année et pour me battre aux avant-postes.
On va élargir un petit peu le débat. Je sais qu'au départ, évidemment, tu étais un pilote de monoplace, mais c'est logique, hein. Après, c'est difficile de trouver des places, bah, déjà en Formule 2, maintenant en Formule 1. Quel regard tu portes, on va dire, sur l'ascension des jeunes pilotes français ou assimilés, on le dit à chaque fois, mais évidemment, on va parler de Charles Leclerc, on va parler de Pierre Gasly. Est-ce que d'abord tu les connais, tu la gardes de près, et cette année, tous les deux vont intégrer des équipes de pointe, donc vont être capables de gagner les grands prix de Formule 1. Comment tu regardes ça?
Ouais, c'est super cool. Bien sûr que c'est toujours le plan de la Formule 1. Je connais bien Pierre Gasly parce qu'on a pu faire la F4 ensemble à nos débuts. Et je suis très heureux pour lui et pour Charles également, que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère qu'ils vont bien performer, gagner des victoires et qu'ils vont détrôner mon père. Et qu'il y a un Français qui gagne enfin un Grand Prix. Et j'espère que voilà, ce sera un de ces deux-là parce que c'est vraiment des super gars. Et ils méritent leur place dans ces belles équipes.
On rappelle, hein, vous dites détrôner votre père parce que votre papa, Olivier, est le dernier Français à avoir remporté un Grand Prix de Formule 1. C'était en 96 à Monaco.
Et oui, c'était en 96 à Monaco. Et ça, c'est vraiment, j'allais dire, quelque chose qui nous lie avec Olivier parce que je l'ai commenté en direct pour une autre antenne. Et je me souviens.
Comment ça, pour une autre antenne?
Mais oui, il y en avait une autre.
Bah, c'est pas possible.
Faut dire que les RMC Sport n'existaient pas à l'époque.
Ah oui, bon, ça va.
Et Motors
allez, ça
non
va
plus. Donc c'est, bon, c'était une autre antenne, on va dire. Et c'était avec beaucoup d'émotion parce que Olivier était parti 14e sur la grille de départ. Donc quand on dit qu'on dépasse pas en Formule 1, bah si, il y en a
mais
qui
ça,
dépassent.
Mais ça c'était avant.
Ça c'était avant. Et puis il y avait quelques dépassements qui ont été musclés, rugueux mais virils, comme on dit en matière de rugby. Et je sais qu'il aime bien ça. Non, bah c'est une victoire formidable. Alors comme il le dit lui-même à chaque fois, et je pense qu'Aurélien tu vas approuver, puisque disait Louis il y a un instant, il faut absolument qu'un autre pilote français ou assimilé, parce que moi ça y est, j'ai intégré Charles avec nous depuis le temps. Il faut qu'il y ait un pilote français qui vienne reprendre le flambeau. Hein, ça fait quand même longtemps quoi, 96 à Monaco.
Ouais, bien sûr, hein, c'est le premier à le dire. Mais là, c'est super qu'on a ces jeunes en Formule 1 pour le sport automobile français. C'est vraiment top. Donc voilà, là, ils sont dans de magnifiques équipes et j'espère que ça va bien se passer pour eux.
Allez, on revient au Stade de France puisque c'est l'actualité avec cette super finale qui ne compte pas pour le championnat. Aurélien, on est bien d'accord, hein, tu as acquis la troisième position au championnat. On parlait de ton avenir, donc peut-être et on l'espère, en championnat international de tourisme. Et puis peut-être le trophée Andros l'an prochain. Tu y as pris goût, tu reviendras sur la glace?
Oh, bien sûr, moi j'espère de tout cœur. Je me suis vraiment passé une super saison en trophée Andros grâce à Max Mammers et toute son équipe. Donc j'espère être de retour l'année prochaine.
Génial.
Merci beaucoup Aurélien Panis d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir.
Merci Aurélien.
Salut Aurélien.
Et à très vite dans Motor sur RMC. La grande finale du Trophée Andros, c'est donc samedi prochain au Stade de France. Sébastien Loeb sera là. Sébastien Loeb, il était également à Monaco, en tout cas autour de Monaco, la semaine dernière pour le rallye de Monte Carlo, première manche du championnat du monde des rallyes 2019. On en parle dans quelques instants avec toi Jean-Luc évidemment, avec Lucas Vinoy qui a couvert ce rallye pour RMC et avec le vainqueur, le sextuple champion du monde de la discipline, Sébastien Ogier, qui sera notre invité dans quelques minutes. À tout de suite dans Motors.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h19 sur RMC et sur RMC Sport News Motors en direct jusqu'à 14h avec Jean-Luc Roy et avec Lucas Vinoy, reporter RMC Sport. Dans une vingtaine de minutes, Benoît Boutron nous rejoindra pour Radio Paddock. Vous saurez tout des dernières nouvelles du monde de la Formule 1. La F1 qui se prépare à la reprise. On l'attend, on se languit. Les premiers essais hivernaux à Barcelone, c'est dans 15 jours. Mais d'abord le rallye.
RMC Motors. Dans le rétro.
Un coup d'œil dans le rétro pour revenir sur le premier rallye de la saison. C'était la semaine dernière sur les cols des Alpes et les routes de Provence, le célèbre Monte Carlo. Lucas Vinoy, tu as couvert cette épreuve pour RMC. Ça a été extrêmement serré jusqu'au bout. On va accueillir dans quelques minutes Sébastien Ogier, mais raconte-nous d'abord une dernière journée complètement folle qui aura vu deux pilotes s'élancer séparés d'un souffle et Ogier manquer le... Enfin, presque passé à côté de la catastrophe.
Bien sûr, j'en perds mes mots, tellement c'était fou. C'est un euphémisme de dire que ce rallye Monte Carlo était serré, puisqu'il y avait seulement 4 dixièmes d'écart entre Sébastien Ogier, leader au classement général, et Thierry Neuville, son dauphin, deuxième, le belge sur Hyundai, juste avant la dernière spéciale de ce rallye. Ça a été un mano à mano du début jusqu'à la fin. Franchement, c'était insoutenable, cette lutte. Et puis, à la fin, tant mieux pour nous, mais c'est toujours le même qui gagne, en fait.
C'est toujours
Ogier devant Neuville. On rappelle que Sébastien Ogier est sextuple champion du monde des rallyes et que Thierry Neuville est quadruple vice-champion du monde des rallyes à chaque fois derrière Sébastien Ogier.
Pour une fois que Poulidor n'est pas français.
Voilà, le Poulidor est belge cette fois-ci, donc tant mieux pour nous. Mais oui, ça a été une lutte incroyable et Sébastien Ogier, à chaque fois, dans les moments importants, il arrive à avoir ce petit surplus, ce petit plus, aller chercher les détails et faire la différence. C'est ce qui distingue un très très grand champion des autres pilotes, tout simplement.
Jean-Luc, cette saison 2019, elle s'annonce quand même particulièrement disputée et excitante. Alors évidemment, avec le prisme français, il y aura le duel qu'on verra à 6 reprises entre Loeb et Ogier, mais il y a Thierry Neuville et il y a évidemment beaucoup d'autres concurrents aussi.
Bah exactement, Louis. Écoute, tu vas encore me dire, mais oui, nous survivons toujours. Non mais c'est vrai, c'est quand même un moment passionnant pour toutes les raisons évoquées par Lucas. Parce que maintenant le rallye c'est quasiment de la Formule 1, enfin, ou souvent c'est plus serré que de la Formule 1. Quand on imagine donc au départ effectivement de la dernière spéciale 4 dixièmes d'écart entre deux pilotes qui se sont battus sur des centaines de kilomètres avec de surcroît des conditions météo qui ont été variables, l'intégration on l'a souligné aussi chez Citroën, le retour aux sources en quelque sorte au bercail de l'enfant prodige, puisque, et il faut jamais oublier Julien Ingracia qu'on avait eu dans Motors également et qui nous répond toujours très très favorablement dès qu'on le sollicite, donc cet équipage est magnifique. Je crois que Lucas évoquait le grand champion que c'est. Eh bien oui, s'il parvient, si on est tout au début de la saison, mais si jamais l'équipage parvenait à décrocher un 7e titre de champion du monde pour un 3e constructeur, après donc Volkswagen, 4 années consécutives, le pari de Ford, qui était extrêmement audacieux dans une petite équipe privée M-Sport, on l'a dit, parce qu'il faut rappeler que les moyens n'ont rien à voir avec les moyens des constructeurs. Donc c'est un exploit qu'ont réussi vraiment Sébastien Ogier et Julien Ingracia. Là, bon, on peut dire que ça pouvait pas mieux démarrer, parce qu'avec 29 points déjà au championnat du monde, il compte déjà 7 points d'avance sur Thierry Neuville. On parlait de Poulidor, je pense que Neuville, là, il doit commencer vraiment à se poser des questions. En plus, il y a eu des petits problèmes techniques, Lucas, tu les as vécus, où je crois que c'était pas du bidon, c'est pas le genre
maison, et ouais. La pédale d'accélérateur, en fait, qui restait tout simplement enclenchée pour Sébastien Ogier, ce qui est
quand même ennuyeux.
Imaginez si ça vous arrive sur la route, vous êtes pas bien.
Quand on voit à quel point il faut être précis en rallye, et notamment au Monte Carlo, qui est un rallye extrêmement piégeux. Donc voilà, il y a eu ce petit problème, mais il a réussi à passer au-dessus, à ne pas y penser, et puis surtout s'adapter. C'est aussi ça, un grand pilote, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Il a réussi à le faire pour aller décrocher sa 45e victoire en WRC.
Ce qui est fou, c'est que même si, comme c'est quelqu'un de modeste, il ne sera peut-être pas d'accord avec ce point de vue, Sébastien Ogier, mais on a presque l'impression qu'il n'a pas en France la reconnaissance qu'il mériterait. On n'a pas beaucoup de sextuples champions du monde en magasin dans notre pays.
Tu as parfaitement raison. Alors, je pense qu'il y a deux raisons à cela. La première raison, c'est que donc la majorité de sa carrière, en tout cas là où il a décroché ses titres, il l'a fait à l'étranger. Et effectivement, quand on le compare, c'est toujours à Sébastien Loeb, ce qui est normal, qui est nonuple champion du monde, 9 fois champion du monde. Bon, c'est une question qui revient de manière récurrente quand on lui demande alors est-ce que tu vas aller chercher 9 titres? Bon, il en est à 6, c'est déjà exceptionnel comme tu le dis. Remporté, je le rappelle, 4 fois pour Volkswagen, 2 fois pour Ford, une écurie là, s'il gagne à mon sens un 7e titre de champion du monde pour une équipe française, en l'occurrence Citroën, eh bien je pense qu'en France, effectivement, d'abord il y aura toute une communication autour de lui, autour de l'équipage qui sera faite. Il triomphera pour un constructeur français, de surcroît, comme je viens de le dire, pour un 3e constructeur différent, ce qui sera un exploit extraordinaire. Je crois qu'il n'y a qu'un seul pilote Mäkinen de mémoire qui est parvenu à faire ça il y a très longtemps.
Ou Juha Kankkunen, pardon.
Donc c'est quand même un exploit. Ça veut dire que au-delà des 9 titres, ou plutôt en deçà pour le moment des 9 titres, alors il a signé pour 2 ans chez Citroën, on va déjà le laisser espérer ce 7e titre de champion du monde, peut-être un 8e dans la foulée ensuite, et puis on reparlera du reste. Mais je crois que pour le moment, step by step, puis il y a quand même des gens en face de lui qui sont extrêmement virulents, extrêmement rapides. On parle de Neuville, il y a Tanak également qui est très rapide, il y a Latvala qui est très rapide pour Toyota. Donc je pense qu'on va vivre une saison absolument formidable de WRC.
13h25 sur RMC Sport. Nous, Sébastien Ogier est avec nous en direct dans Motors. Bonjour Sébastien.
Salut, bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, Jean-Luc.
Oui, salut Seb. Ben écoute, je sais pas si tu as entendu tout le bien que je disais de toi. Donc, si tu l'as pas entendu, encore une fois, je disais que c'est la marque des vrais champions que de s'imposer comme ça à domicile pour un retour. Alors, j'allais dire triplement à domicile. Bon, le Monte Carlo, c'est un rallye qui se déroule majoritairement sur les terres françaises, bien sûr. Tu es gapensé, on le sait, tu es de Gap et il y a des spéciales qui passent devant chez toi. Alors, ben, on fait un tout petit retour en arrière. Dans quel état d'esprit étais-tu au départ de ce rallye? Et retour chez Citroën, c'était le 3e point. Retour à la maison peut-être?
Ouais, alors retour à la maison, je sais pas. En tout cas, retour où tout a commencé. C'est sûr que le maître mot au départ, c'était excitation, parce que départ d'un nouveau challenge, le Monte Carlo, comme vous venez de le dire, c'est un petit peu mon rallye. En tout cas, c'est celui qui me fait vibrer depuis tout petit. Et du coup, c'est celui que j'ai toujours le plus envie de remporter dans la saison. Donc c'est sûr que j'arrivais au départ de ce rallye avec l'envie de bien faire, mais malgré tout, pas une préparation énorme au volant de la C3, donc il y avait quand même pas mal d'interrogations, mais assez rapidement les sensations ont été bonnes, et puis on a réussi à faire une course très propre, sans erreur, faire les bons choix de pneus plus ou moins tout le temps, et du coup c'est la clé pour un bon résultat sur le Monte Carlo.
Sans erreur, certes Sébastien, mais avec quand même une vraie frayeur. On s'était déjà parlé dimanche, juste après la dernière spéciale, et après ce petit incident que vous nous disiez que vous n'aviez pas réussi à résoudre, mais vous aviez réussi à faire avec. Avec le recul, est-ce que vous dites que vous êtes quand même passé tout près de la cata là?
Oui, en tout cas, le problème qu'on a eu le dimanche, c'était quelque chose de nouveau, interne au capteur de la pédale d'accélérateur, en fait. Et j'ai pas eu les résultats des dernières analyses, je vais les avoir dès demain, puisque ce soir, je prends la route de la Suède pour 2 jours de test, là, et donc je vais revoir un peu toute mon équipe technique. Mais c'est vrai que c'était un capteur qui était défaillant, mais pas tout le temps. Donc du coup, on avait du mal à savoir quand le problème allait apparaître ou non. Et aussi, la question qu'on avait, c'était de savoir s'il allait finir par lâcher complètement ou pas. Et c'est vrai que du coup j'étais assez inquiet, parce que j'avais forcément, déjà j'avais envie d'essayer de gagner le rallye, mais même au moins assurer une deuxième place, ça aurait été des gros points pour le championnat. Et c'est vrai que dans le cas où le capteur serait mis à plus fonctionner du tout, là c'était la fin du rallye pour nous. Donc du coup, ouais, il y avait pas mal de stress le dimanche, mais bon, ça valait le coup de se battre jusqu'au bout, puisque finalement on a réussi à arracher cette victoire dans les derniers mètres de la Power Stage.
Sébastien Ogier, l'invité de Motors en direct sur RMC et RMC Sport News. Question de Lucas Vinois.
Du stress, Sébastien, forcément avec ce petit problème, mais quand même une 7e victoire au Monte Carlo. Est-ce que tu as le temps en temps de te poser et d'avoir du recul sur ta carrière? 7 victoires au Monte Carlo, 45 victoires en rallye, 6 titres de champion du monde, peut-être bientôt plus, en tout cas c'est ce qu'on te souhaite. Mais est-ce que tu arrives à prendre du recul et à te rendre compte déjà de tout ce que tu as accompli avec Julien en rallye?
De temps en temps, on essaye quand même de penser un petit peu et de regarder tout le chemin parcouru. Mais c'est vrai que quand on est toujours actif, on a toujours tendance à regarder de l'avant et à en vouloir toujours plus. Mais c'est sûr que les peu de fois où je prends le temps de me poser un petit peu, je me dis que quoi qu'il arrive aujourd'hui, tout ce qu'on a fait ces dernières années, c'est déjà beaucoup plus que ce que je rêvais il y a une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, c'est que du bonus. On essaye d'ajouter encore quelques victoires si on peut et encore quelques titres puisqu'on a signé, on a signé pour 2 ans. Mais c'est sûr qu'on peut, je pense, quoi qu'il arrive, déjà être fier du chemin parcouru avec Julien.
Mais le mot est faible, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. Effectivement, vous pouvez être fiers tous les deux, c'est absolument formidable. Seb, j'ai envie de te parler du retour chez Citroën, malgré tout, hein, nous on est obligé de le voir comme ça, parce que on évoquait avec Louis, je ne sais pas si tu l'as entendu, peut-être le petit déficit de notoriété, je sais que pour toi c'est pas forcément très important, dont malheureusement tu pâtis en France, qui est une hérésie totale, parce qu'on vient de le dire et de le souligner, tu es un champion formidable, tu l'as déjà emporté pour 2 constructeurs, peut-être bientôt pour 3, on croise les doigts, et le palmarès, tu viens de le dire, avec 45 victoires. Donc, ma question portait sur Citroën, puis j'en aurai une autre, évidemment, après, mais ce retour au bercail, tu as dit que tu connaissais quand même un certain nombre de gens qui sont toujours membres de l'équipe, même si tu l'as quitté de mémoire en 2011, fin 2011, hein, début 2012, donc ça fait pas mal de temps.
C'est ça.
Voilà, tu as retrouvé tes marques, d'une part, et d'autre part, a-t-il fallu faire évoluer beaucoup la voiture pour l'avoir comme tu aimes la piloter, toi ? Parce qu'on sait qu'il y a toute une mise au point technique, notamment avec les différentiels, enfin, on va pas être trop technique, mais il faut la voiture à ta main, je dirais.
Oui, exactement. C'est sûr qu'en 4 jours d'essai, là, avant le départ du Monte Carlo, on n'a pas pu faire de révolution sur la voiture. Donc, en gros, on a fait avec la voiture telle qu'elle était, en essayant de bien découvrir la gamme de réglages malgré tout et d'essayer de se sentir le plus à l'aise derrière le volant. Et comme je l'ai dit, mes sensations étaient relativement bonnes. Maintenant, il y a encore quand même du pain sur la planche, comme on dit. Il y a encore de quoi faire pour arriver à être au top partout. D'autant plus que la Toyota est vraiment vraiment très rapide en ce moment. Donc je pense que ça va être de grosses batailles contre eux cette saison, sans oublier Neuville et Hyundai. Donc ouais, c'est sûr que c'était sympa de retrouver pas mal de têtes connues quand même chez Citroën, mais il y a eu, bon, bien sûr, sept ans sont écoulés depuis notre dernier passage chez Citroën, et bien sûr, il y avait beaucoup de renouveau aussi, mais je pense que le plus important, et ce qu'on a senti depuis le début, c'est qu'il y avait une grosse envie de retrouver un petit peu des couleurs et de retrouver les succès qui étaient les leurs il y a quelques années. Donc je pense que tant qu'il y a de l'envie, ça donne de bonnes chances de réussir, j'espère.
Lucas, est-ce que ça t'a fait bizarre d'enfiler cette combinaison rouge ? Parce que nous, franchement, te voir avec celle-ci, ça nous a fait un petit peu bizarre, ça nous a replongé dans le passé.
Ouais, ça faisait quelques années qu'on était en bleu, en tout cas, et le bleu ne me déplaisait pas, c'est vrai que c'est une couleur que j'aime bien, mais après, bon, les couleurs, ça importe peu finalement. Le plus important, c'est d'avoir du matériel performant entre les mains, et je pense que la C3 a du potentiel à nous d'être capable de l'exploiter maintenant.
Oui, Sébastien, je vais te rendre un nouvel hommage, parce que malheureusement, on a vu M Sport et Ford nulle part pendant ce rallye de Monte Carlo avec des erreurs des pilotes, et moi j'aime à souligner que le rallye, comme la moto, la part du pilote est prépondérante dans le résultat final. Alors évidemment, ma question est à double sens, hein. Je sais que tu ne vas pas accabler tes successeurs en tant que pilote, mais effectivement ça démontre qu'il fallait vraiment un équipage de premier plan et un pilote de premier plan, non seulement au volant de la Ford pour gagner, mais également, j'ose dire, au volant de la Citroën aujourd'hui. Est-ce que tu abondes dans ce sens-là? Je sais que c'est une question piégeuse, hein, parce que tu vas pas te jeter de fleurs tout seul.
Oui, exactement. C'est jamais à moi de pouvoir juger, en tout cas, ou de mettre des mots sur ce genre de performance. Mais c'est sûr que c'est pas nouveau en rallye. L'équipage a une grosse partie, une grosse responsabilité vis-à-vis du résultat. C'est vrai, quand on roule sur circuit, souvent, il faut être dans la bonne équipe, dans la bonne voiture. Sinon, on n'a vraiment aucune chance de s'imposer. En rallye, je dis pas que si on a une mauvaise voiture, on peut gagner quand même. D'autant plus aujourd'hui, avec le niveau actuel du championnat, c'est quand même pas simple. Mais c'est sûr qu'il y a quand même encore de la place pour s'exprimer et pour faire la différence avec l'équipage. Donc avec Julien, c'est sûr que notre expérience commence à être assez importante en rallye. Et puis l'expérience accumulée dans tous les teams nous permet finalement de rapidement aussi apporter des nouvelles idées, de nouveaux éléments dans les équipes où on arrive. Et c'est vrai que jusqu'ici, ça nous a toujours bien réussi. On s'est rapidement adapté à nos nouvelles montures.
Alors deux questions en une. La première, est-ce que c'est plus facile ou c'est finalement assez indifférent pour toi de t'exprimer maintenant en français auprès des techniciens, auprès des ingénieurs, après t'être exprimé évidemment en allemand, puisque je crois que tu le parles évidemment couramment. On sait pourquoi chez Volkswagen, et puisque ton épouse est allemande, hein, je le rappelle, et que tu as vécu pas mal là-bas. Et puis en anglais, probablement auprès des Britanniques. Et puis deuxième question qui s'ensuit, on change pas beaucoup finalement de surface. On va partir en Suède. Vous allez partir en Suède faire des essais. Bien, par parenthèse, tu as appris que Seb Loeb est sorti en essai avec la Hyundai. Donc voilà, ça fait même trois questions en une. Allez, je te laisse.
Oui, ça fait beaucoup. J'ai entendu oui, que Seb était sorti. Bon, l'important c'est qu'il n'y a pas de bobo a priori.
Ouais, ça va.
Un petit peu de réparation à faire sur la voiture et puis je pense que autant faire les erreurs en essai plutôt qu'en course. Donc faut compter sur eux. Je pense qu'ils seront là une fois de plus pour animer la course. Après, la question au niveau des langues, c'est vrai que c'est sympa de retrouver le français quand même. Même si depuis des années maintenant, j'ai pas mal progressé effectivement dans les langues étrangères. Je repense à mes débuts il y a une dizaine d'années. J'étais assez perdu à chaque fois qu'il fallait donner une interview en anglais. Aujourd'hui, bon, l'anglais, ça, je commence à maîtriser à peu près. L'allemand, je dirais pas que je le parle couramment, mais je baragouine un peu, comme on dit, et je le comprends. Mais c'est sûr que retrouver un environnement français, c'est quand même agréable, même si les débriefings techniques restent en anglais finalement, parce que notre coéquipier, Sapeka Lapi, est en finlandais, ne parle pas français, donc du coup, ça reste finalement l'anglais qu'on utilise le plus. Mais c'est vrai que vu que ça fait 8 ans que je pratique tous mes débriefings techniques en anglais, finalement, je suis presque plus à l'aise à l'heure actuelle en anglais qu'en français pour parler de ressenti technique au niveau de la voiture.
Sébastien Ogier est l'invité de Motors en direct sur RMC et sur RMC Sport. Nous, Sébastien, on va se projeter sur le prochain rallye. Le prochain rallye, on l'a dit, c'est en Suède. Parlez-nous de ce terrain qui sera évidemment complètement différent de celui que vous avez connu la semaine dernière et que vous allez devoir ouvrir parce que c'est le revers de la médaille de la victoire en quelque sorte.
Oui, alors ben c'est vrai que souvent la Suède partir devant c'est pas vraiment un avantage. J'espère que les conditions seront quand même un petit peu meilleures que l'année dernière, parce que l'année dernière on avait eu énormément de neige, des grosses chutes juste avant le départ du rallye, ce qui fait que je faisais un peu le chasse-neige à partir devant et du coup c'était compliqué. J'avais vraiment galéré tout le week-end pour accrocher une 9e place. C'était vraiment catastrophique. Donc j'espère que cette année ça sera un peu mieux parce que c'est un rallye magnifique, c'est le seul rallye 100% neige de la saison et c'est vrai qu'avec les pneus qu'on a, avec les gros clous qui nous offrent énormément de grip, les sensations de pilotage en Suède sont vraiment fantastiques. Comme je le disais juste avant aussi, demain et après-demain, je fais mes deux journées de test et même si ça fait 10 ans qu'on pratique ce sport, je suis toujours aussi excité avant d'aller faire les tests en Suède. C'est vraiment des sensations uniques, c'est très rapide et des grandes glisses, grandes dérives à haute vitesse. Donc j'anguille le départ du rallye parce que c'est un rallye que j'apprécie beaucoup, mais c'est sûr que j'espère que la météo sera un petit peu plus clémente que l'année dernière et que les températures seront bien froides, avoir une route bien compacte et bien verglacée, ça serait l'idéal pour moi en partant devant.
Oui, a priori on te le souhaite effectivement, puisqu'il y a cet aspect, comme l'évoquait Louis, cet aspect d'ouvrir la route hein, contre lequel tu te bats. Alors c'est un peu moins pénalisant que ça ne l'a été parce que le règlement l'impose uniquement le premier jour. Maintenant, c'est déjà ça, de prix, on va dire. Alors ma question, elle était très simple et tu l'as évoqué avec les essais et les pneumatiques. Ça va être un petit peu moins le casse-tête qu'au Monte-Carlo ou pas vraiment finalement la Suède?
Ah oui, parce qu'en Suède, on a qu'un seul type de pneus. Donc finalement, au niveau des choix de pneus, il n'y a plus du tout de difficultés. C'est pas là que ça se joue. C'est sûr que ça serait bien d'avoir des choix, justement, parce que ça pourrait éventuellement m'aider à compenser justement la position sur la route. Et c'est vrai que si tu pars devant, tu peux te permettre d'avoir des clous plus longs, par exemple, ou d'avoir peut-être des pneus plus étroits, si c'était possible. Maintenant, c'est plus le cas aujourd'hui. En Suède, on a un pneu unique, donc à nous de faire avec. Mais c'est vrai que du coup, la stratégie sera plus simple à ce niveau-là, du coup.
Dernière question, Sébastien, c'est Lucas qui vous la pose.
Oui, je voulais revenir par rapport justement au fait que tu vas ouvrir la route avec Julien pendant ce rallye de Suède. On sait que si les conditions climatiques ne sont pas en ta faveur, tu ne pourras pas jouer devant. Moi, je te pose la question, on en avait déjà parlé, à quand le retour d'un checkdown qualificatif pour éviter justement cette inégalité sur la route?
Je crois que c'est pas moi qu'il faut poser la question, parce que vous savez tous mon point de vue sur la question, mais ça fait des années que je me bats pour essayer d'avoir des règles plus équitables, et bon, c'est pas le
Mais tu devrais avoir plus de cas, points en tant que sextuple champion du monde.
Ouais, apparemment non, puis j'avoue que j'ai un petit peu laissé tomber cette bataille parce que c'est vrai que c'était plus une perte d'énergie pour moi finalement et c'était plus coûteux parce que du coup ça me donnait l'image de quelqu'un qui râle et qui se plaint alors que la vérité c'est qu'on voulait juste essayer d'avoir des règles équitables donc c'est vrai que du coup j'en parle plus aujourd'hui et on fait avec mais c'est sûr que ouais c'est sûr que si on pouvait revenir à la règle avec le de laquelle il faut check down, ça serait parfait.
Et on va observer ça de très près. En tout cas, tu es parti sur la meilleure trajectoire qui soit, c'est le moins qu'on puisse dire. On va suivre ça de près en Suède.
Merci beaucoup. Merci beaucoup Sébastien d'avoir été avec nous, un habitué de Motors, un fidèle d'RMC. Merci Sébastien, comme toujours, de votre disponibilité. 13h39, dans un instant, la suite de Motors en direct sur RMC et sur RMC Sport News. Benoît Boutron va nous rejoindre. On va parler de F1 dans Radio Paddock parce que le WRC, ça a repris et la F1, ça approche. À tout de suite.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h41 sur RMC Sport News. Bienvenue si vous nous rejoignez Motors en direct jusqu'à 14h. À 14h, vous retrouverez Christophe Cessieux pour l'Intégral Sport. Jean-Luc Roy est toujours là. Oui. Lucas Vinois également. Benoît Boutron nous a rejoint pour Radio Paddock.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Salut Benoît.
Salut les amis. Lucas, Louis, le King.
Hello Ben.
Ça
le
va
King.
Tout
le
va
King
bien
qui est de retour. Eh oui,
le King
de
retour.
Évidemment.
Le patron.
La F1, Benoît. On parle de la F1, toujours de la F1 dans Radio Paddock.
Eh oui, puisque ça vous manque, évidemment. Ça va revenir.
Oui,
t'inquiète pas, Lucas, ça va revenir.
Oui, j'ai hâte.
Quelques infos à vous donner. Effectivement, j'allais vous parler de la présentation de Mercedes, mais auparavant, je voulais vous parler des tensions qui commencent à exister entre Liberty Media et la FOPA. On va rappeler ce qui est la FOPA et ce qui est Liberty Media. Liberty Media, c'est le propriétaire actuel de la Formule 1, donc ce sont des propriétaires américains. Et la FOPA, c'est une association en fait des organisateurs de courses. Ça représente 16 des 21 grands prix sur la saison, et ça représente des grands prix mythiques, notamment 5 qui doivent renégocier leur contrat. L'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et le Mexique, tous craignent de disparaître et ils adressent 3 reproches principaux à Liberty Media qui est le propriétaire de la Formule 1. Le premier, le passage des droits TV en payant, puisque dans la plupart des pays maintenant, il faut payer pour avoir accès à la Formule 1. On en est le bon exemple puisque nous, le diffuseur, c'est Canal+, évidemment. Le manque de clarté sur les initiatives mises en place parce que Liberty Media fait un petit peu son travail de son côté sans avertir les organisateurs de Grand Prix, du coup, qui sont souvent pris au dépourvu. Et la mise en place, surtout, de nouvelles destinations. C'est ça qui fait grincer des dents, Jean-Luc, j'allais en parler avec toi. La goutte d'eau, en fait, ça a été ce futur Grand Prix de Miami, voulu par Liberty Media, qui est américain, évidemment. Et en fait, ce qui pose problème, c'est que lorsqu'on veut accueillir un Grand Prix de Formule 1, il faut payer pour organiser un Grand Prix. Et là, Liberty Media aurait choisi, en fait, de ne pas faire payer les organisateurs de Miami et, en fait, d'accepter un partage des revenus générés par la course. Ça fait bondir, évidemment, les acteurs traditionnels de la Formule 1, Jean-Luc.
Écoute, c'est un problème, j'allais dire, récurrent qui remonte à Bernie Ecclestone, mais Bernie était le grand patron, il décidait, il imposait. Et personne ne mouftait, si j'ose dire, parce que si on voulait être au calendrier de la Formule 1, je rappelle que Liberty Media sont les droits commerciaux, hein, sont les droits, c'est le calendrier, en fait, les droits sportifs, c'est toujours la fédération. En corrélation, on peut en parler aussi, c'est quand même un autre département. Mais pour reprendre ta question, ben oui, c'est vraiment briser là un principe qui était toujours le même, puisque on voulait accéder au calendrier de la Formule 1, il fallait payer de l'ordre de 20 à 50 millions de dollars, quand même.
C'est énorme.
Une année, donc c'est carrément énorme. Et comme Liberty Media, ben quelque part, qu'on attend, moi j'avoue que je suis plus que sceptique maintenant sur l'action de Liberty Media, pour plusieurs raisons. On a vu les deux premières mesures, à mon sens, débiles, donc je le redis, la suppression des Grid Girls, enfin ce qui est n'importe quoi.
Ah, les Grid Girls.
Ça fait longtemps.
Et la deuxième, le départ des Grands Prix à 15h10. Non mais on se demande d'où ça peut sortir.
Non, mais ça c'est vrai.
Bon, on efface ça. Pour revenir à ce que tu évoquais, il se trouve que je connais très bien la situation à Miami et qu'effectivement, bah, les habitants, malheureusement, en gros, ils en veulent pas. La majorité des lobbies locaux n'en veulent pas. En tout cas, si ça.
L'idée, c'est un circuit urbain à Miami.
Oui, c'est un circuit urbain. C'est un circuit de Mickey.
Mais sur Miami Beach ou sur Miami dans la ville?
Non, ce serait downtown, Miami downtown, avec une partie d'un pont. Il y aurait un demi-tour. On reviendrait sur le pont et après, on ferait deux petits virages. Enfin, je peux déjà te dire que le circuit serait sans intérêt si ça voit le jour. Mais c'est important.
Mais ça ferait de belles images.
Ça ferait ferait des belles images. Ça, mais ça, c'est une évidence. Ça, moi, je vais pas plaider contre.
Et un deuxième Grand Prix aux États-Unis.
Un deuxième Grand Prix aux États-Unis.
Oui, mais d'ailleurs, je crois que les organisateurs d'Austin sont très mécontents de ce choix.
Bien sûr, bien sûr. Il y a un traitement qui est totalement différent parce qu'Austin, il paye, et il paye cher. Voilà. Et on sait qu'il y a deux ans, il y avait eu cette tempête d'eau, etc., qui avait fait le Grand Prix avait failli ne pas être organisé. Au dernier moment, il a eu lieu avec beaucoup moins de spectateurs. Il y a eu un gouffre financier qu'il a fallu combler. Donc là, c'est deux poids, deux mesures. Et bon, je veux bien qu'on crée un autre. On a parlé de New York, très longtemps, mais on n'a jamais réussi à le mettre en place.
C'est un fantasme.
À New York.
Las Vegas aussi, ça.
Las Vegas, il y en a eu un. Il y en a eu à Détroit. Enfin,
bon, Las Vegas, il y aura encore moins d'intérêt au niveau du circuit. Ce serait une ligne droite, un virage, une ligne droite.
Il y avait celui également qui était à côté de Los Angeles. Enfin, bon, on ne va pas reprendre tous les Grands Prix des États-Unis depuis la création du championnat. Mais c'est clair que moi, je comprends la démarche des organisateurs qui sont très mécontents. Les équipes, ça commence à couiner également au plan technique, parce qu'il n'y a toujours pas de définition technique concernant les moteurs, ce qui commence à être un scandale, parce qu'on parle quand même de la saison 2020, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et pour le moment, la renégociation des droits, ça se passe vraiment très mal.
Voilà. Lucas, toi qui couvres la Formule 1, évidemment, pour RMC et qui parcourt tous les circuits, est-ce que tu peux observer les initiatives de Liberty Media? Est-ce qu'il y a une patte Liberty dans l'organisation, dans le déroulement des Grands Prix?
Oui, dans le show. On le voit dans le show avec les invités, beaucoup plus de place pour les VIP, beaucoup plus de place pour les influenceurs aussi, notamment sur les réseaux sociaux. C'est la mode américaine, on essaye de faire voir le produit, de le diffuser le plus possible, et ça marche, puisqu'on avait parlé dans l'émission Motors d'ailleurs des retombées au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, c'est vrai que en termes technique, au niveau du règlement, que ce soit au niveau des circuits, etc. Oui, pour l'instant, Liberty Media ne remplit pas forcément sa part du contrat. On va aller au Vietnam sur un circuit qui, franchement, on a vu les plans, il n'a pas encore été dessiné, mais on peut être un petit peu sceptique sur l'intérêt de ce circuit. Et puis, c'est tout simplement une question d'égalité et d'équité. Pourquoi certains devraient payer pour être au calendrier?
Bien sûr.
Et pourquoi certains pourraient bénéficier de passe-droit?
Au moins avec Ecclestone, c'était clair, il n'y avait rien de gratuit.
Et j'ose la question, la place de qui, le Vietnam? Parce que forcément, on va pas pouvoir, je sais bien que l'ambition, c'est de mettre 22, 23, 24, 25 grands prix, mais les équipes ne pourront pas tenir. Parce que les équipes demandent une meilleure rémunération, et ça, c'est un autre problème. Or, la rémunération, elle est en baisse. Et là, le coup, y a un problème, les voyants sont pas au vert.
Le problème qui se pose aussi, les logistiques pour les écuries, les différentes écuries de Formule 1. Pourquoi? Tout simplement parce que on est obligé d'organiser des roulements. Les saisons sont trop longues. Le personnel est usé, fatigué. C'est la raison pour laquelle il n'y aura pas d'ailleurs trois grands prix d'affilée cette année comme l'année dernière, puisqu'on a dû recruter d'autres personnes. Ça a coûté cher. Et là, on peut ajouter aussi le problème du Brexit. Ça fait énormément de problèmes. Pour l'instant, la Formule 1 est polluée par des problèmes extra-sportifs qu'il va falloir régler puisque la saison approche. Et pour bien l'aborder, il faut aussi que les écuries et les idées claires sur ce qui va se passer dans les années à venir.
Juste en un mot, parce que le lien est pas forcément évident, si tu parles du Brexit, et si le Brexit est un problème pour les écuries de Formule 1, c'est parce que la plupart des écuries, voire l'écrasante majorité des écuries, est installée en Grande-Bretagne, et que forcément pour l'acheminement de matériel et les passages de frontières, c'est-à-dire qu'il s'agisse de matériel ou d'humains, les règles de sortie de l'Union Européenne de la Grande-Bretagne vont avoir une incidence sur la F1.
Un grand prix pour Mercedes, c'est 100 personnes qui se déplacent. Faut les déplacer,
le niveau normal.
Mais l'usine Mercedes, contrairement à ce qu'on peut penser, est en Angleterre, à quelques kilomètres de Silverstone.
Exactement.
Pour terminer sur une note optimiste, j'allais juste dire, parce que bon, il faut quand même, on l'attend cette saison avec impatience. Heureusement qu'il y a des enjeux sportifs qui sont
évidemment,
avec la nouvelle redéfinition,
qui vont masquer tout ça.
Voilà, la nouvelle redéfinition aéro pour permettre des dépassements plus faciles, on va dire, ou moins difficiles. Et puis il y a nos deux Français qui arrivent dans des écuries de pointe, donc on peut espérer entendre la Mercedes. Peut-être.
Mais pour le sportif, en fait, on va aussi attendre les premiers essais qui donneront des véritables réponses. Là, on est un peu dans l'expectative. Mais il y a quand même du nouveau, Benoît.
Oui, du nouveau. Le Sauber va disparaître, ou du moins changer de nom. C'est l'info qui est tombée cette semaine. Le fondateur, donc Peter Sauber, qui avait fondé cette écurie de Formule 1 en 1993, eh bien, l'écurie va changer de nom. Elle va devenir Alfa Romeo Racing. Alfa qui était devenu le sponsor titre de l'écurie suisse la saison dernière et qui récupère cette fois donc le naming de cette équipe. L'équipe va rester basée en Suisse, c'est juste le nom qui change.
Inwheel.
Avec Kimi Raikkonen, parce que certains ne le savent pas certainement, mais Kimi Raikkonen va piloter une Alfa Romeo la saison prochaine avec l'Italien Antonio Giovinazzi.
Là aussi, on peut dire que c'est une, pour la faire brève, je peux la faire longue, mais que c'est une page qui se tourne. Alfa Romeo est en Formule 1 depuis très longtemps. On rappelle que les deux premiers titres de champion du monde en Formule 1 été remportées par Alfa Romeo ont été remportées en 1950 et 1951, ça remonte à loin. On a vu fugitivement le nom Alfa réapparaître en Formule 1, mais sans beaucoup de succès depuis. Et là, bah, c'est une page qui se tourne, hein, parce que Peter Sauber, c'est un type, tous les fans de sport mécanique vous diront la même chose, pour lequel on a beaucoup de respect et beaucoup d'admiration même, parce que c'est une équipe suisse, et faire du sport mécanique en Suisse, je peux vous dire que c'est compliqué depuis 1955. On rappelle que toutes les courses automobiles sont interdites, donc un. Deuxièmement, il s'est illustré en sport proto, il a gagné Le Mans avec les Mercedes, avec à l'époque Schumacher, Frentzen, etc. Et c'est des années que j'ai très très bien connues au Mans. Donc voilà, c'est un petit pincement au cœur de voir Peter Sauber disparaître des grilles de départ de Formule 1.
Lucas. Giuseppe Farina qui avait remporté le premier titre de l'histoire de la Formule 1 sur Alfa Romeo, que Jean-Luc connaît bien.
Qu'il a vu débuter. Bande
de petits salauds.
Un mot de Mercedes, ça y est, on connaît la date de présentation de la W10. Eh oui, la nouvelle Mercedes qui sera pilotée par Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Ce sera le 13 février, donc présentation de Mercedes. On peut rappeler d'ailleurs la présentation des teams, si tu veux, les dates qui sont connues désormais. Toro Rosso le 11, Renault le 12, Mercedes donc le 13. Le 13 également Racing Point, McLaren le 14, la Ferrari le 15.
Racing Point c'est Force India. Hein.
Voilà, la Force India.
Nouveau nom de Force
India.
Exactement. Il va falloir s'y habituer.
Ouais. Et donc Alfa Romeo Racing le 18, on connaît pas encore la date de Red Bull, de Haas et de Williams. On rappelle que les essais hivernaux, ce sera du 18 au 21 pour la première session à Barcelone, et toujours à Barcelone la deuxième session du 26 février au 1er mars, premier Grand Prix 17 mars, l'Australie.
Alfa Romeo donc qui a décidé de présenter sa voiture en marge des essais de Barcelone.
Exactement.
Absolument. Un choix marketing assez fort pour ce nouveau nom.
Et un mot de Fred Vasseur,
oui, bien sûr,
billet,
le patron
de l'équipe, qui est un Français qui a repris les commandes et qu'on salue aussi, qui est régulièrement dans Motors. D'ailleurs, faudra qu'on le prenne.
Et qui a réussi de beaux résultats la saison dernière. Bien aidé par Charles Leclerc qui est passé chez Ferrari pour son plus grand bien et pour notre plus grand plaisir, je crois qu'on peut le dire. Les essais hivernaux, Jean-Luc, en quoi c'est important ?
En tout.
Non, parce que la hiérarchie, tu vois, par exemple, l'année dernière, voire celle d'avant, on annonçait une Ferrari très rapide, une bataille à trois, Ferrari, Mercedes, Red Bull à l'issue des premiers essais, et puis finalement tout ça se dégonfle un peu. Mais est-ce qu'on peut vraiment en tirer des tendances ?
Alors, oui, quand ça marche, c'est toujours mieux que quand tu es accablé de problèmes techniques qu'on va s'efforcer de résoudre dans le petit mois qui suit, puisqu'après il reste moins de 4 semaines et beaucoup moins si on parle d'expédier le matériel à l'autre bout de la Terre, c'est-à-dire à Melbourne, en Australie. Donc oui, quand ça marche, c'est toujours mieux, quand c'est fiable, quand on peut aligner les tours et quand on démontre, je le répète, avec cette nouvelle définition aérodynamique très importante, non seulement l'aileron avant, mais les bargeboards, c'est-à-dire les côtés, enfin bref, c'est toute la logique aéro de la voiture qui a été revue. On a travaillé en soufflerie pour le moment. Donc on va voir vraiment sur le terrain ce que ça donne, qui s'en est le mieux tiré, qui s'en est le moins bien tiré, mais il y aura des évolutions bien évidemment, et puis on peut être certain que si jamais il y a quelqu'un à trouver quelque chose lors des essais de ces essais de pré-saison, et bien tous les autres vont copier, voilà, pour arriver au premier Grand Prix avec quelque chose adapté. Donc oui, ça sert, maintenant c'est pas effectivement une hiérarchie absolue, j'allais dire, et puis on tarde tellement, on l'a dit et redit, de voir Pierre Gasly sous les couleurs effectivement de Red Bull, et de voir Charles Leclerc sous les couleurs de Ferrari, ça c'est quand même un enjeu.
C'est vrai que ce que dit Jean-Luc, c'est vrai que c'est mieux quand ça fonctionne, forcément. Là, on a hâte de voir Red Bull avec le moteur Honda, voir un petit peu combien de tours ils vont réussir à aligner. On se rappelle que les débuts de Honda avec McLaren à Barcelone, ça avait été extrêmement compliqué. Ils n'avaient pas réussi à aligner 10 tours de suite. Mais on a des contre-exemples aussi. On se rappelle l'année dernière de Force India, qui était en délicatesse totale, qui n'arrivait pas à être fiable, qui était très très loin en termes de chrono aux essais de Barcelone, et qui, en arrivant en Australie, c'était toujours compliqué, mais a pris 2-3 grands prix, qui a su prendre une autre direction, se corriger et finalement faire une très belle saison, parce que l'écurie, oui, a perdu des points, tous ses points au classement constructeur à cause du changement de nom, mais sinon c'était plutôt positif, cette saison était plutôt positive pour Force India.
Et puis évidemment c'est un plaisir pour tous les pilotes, même pour les suiveurs,
bien sûr,
Lucas, de retrouver le cirque en fait, hein, c'est le premier week-end d'installation du cirque.
Pierre Gasly nous confiait quelque chose aussi, et Daniel Ricciardo aussi, c'est toujours particulier quand on change de monoplace, parce que la position n'est pas exactement la même.
Par exemple,
prenez un pilote comme Daniel Ricciardo, ça fait des années qu'il est chez Red Bull, ça fait des années que sa position est exactement la même dans la monoplace, et là, il va se retrouver dans une nouvelle monoplace, à savoir la Renault, où il sera peut-être un petit peu plus haut, peut-être un petit peu plus bas, peut-être un petit peu plus reculé par rapport à la Red Bull, et ça, c'est quelque chose qu'il faut réussir à assimiler pendant les essais.
Benoît, on enchaîne.
Et une dernière info Formule 1 avant de passer au reste, Dean Locke, le fameux Dean Locke, qui est responsable média TV en Formule 1, s'est engagé à améliorer l'emplacement des caméras en Formule 1. Voilà, puisqu'il a dit, en fait, je vous résume en gros son propos. Il a dit, lorsqu'on assiste en spectateur à un Grand Prix de Formule 1, on se rend compte de la vitesse et du spectacle que ça représente, mais parfois, l'image écrase l'impression de vitesse, donc ils veulent changer, réformer les emplacements des caméras en Formule 1. Et un gros travail, c'est pour ça que je te regarde, sur le son, le moteur de Formule 1. On n'a plus envie d'entendre des tondeuses lorsqu'on regarde la télé. Du coup, il va tout faire pour essayer d'améliorer le son auprès des Grands Prix.
Alors, deux remarques, là aussi, ça pourrait prendre deux heures, mais je la fais brève. La première, l'emplacement des caméras. Alors, j'ai eu le privilège, parce que c'en est un, à la première époque Canal, de collaborer étroitement avec Bernie Ecclestone et toutes les équipes de Bernie, puisqu'on produisait un signal numérique, les gens s'en rappellent, ça s'appelait kiosque, hein, on avait 7 signaux différents, et on travaillait, on avait nos propres caméras, et après chaque Grand Prix, on avait, et ça a duré 7 saisons, on avait un débriefing avec les équipes techniques pour améliorer le positionnement des caméras. J'ai l'impression que tout ça est parti à la poubelle, bien évidemment, aujourd'hui, parce que le but était de rendre la vitesse, parce qu'effectivement, une caméra, ça écrase complètement la vitesse. Donc le but, c'est de les mettre plus bas, de les excentrer. Aujourd'hui, on a l'impression, j'y vais crûment, comme d'habitude, que c'est surtout pour filmer les panneaux publicitaires, qu'on voit bien l'annonceur par secteur, puisqu'on sait que c'est vendu en exclusivité, et qu'on a, au détriment des monoplaces qui sont toutes petites, et même nous, bah, commentateurs, on a du mal à reconnaître les voitures, surtout que maintenant, je vais pas y revenir, on a affublé les monoplaces avec quelque chose, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais de grillage,
qu'on puisse voir
qu'on puisse voir la tête des pilotes. Donc ça va dans le bon sens. Maintenant, pour trouver du bruit, encore faut-il que les moteurs en face, si tu vois ce que je veux dire.
Parce que
là aussi, on cherche une solution. Le vrai problème, c'est de redonner du bruit à moteurs.
La dernière initiative en la matière était franchement ridicule. Je me rappelle que les micros avaient été positionnés au niveau de l'échappement des monoplaces, qui rendait un bruit complètement différent du bruit réel d'une Formule 1, et pour avoir discuté avec pas mal d'anciens pilotes, ils disaient que voilà, il faut arrêter de trafiquer le bruit, d'essayer de trouver des solutions, il faut juste remettre un petit peu de décibels.
Justement, on est passé de V10 de 3,5 litres qui prenait 18 000 tours à des 1,6 litre, donc V6, donc tout petit moteur turbo. Comment retrouver un bruit de moteur? En remettant des vrais moteurs, voilà, c'est tout, c'est simple.
20 secondes, Benoît, pour deux dernières infos.
Voilà, deux dernières infos. La première, en MotoGP, on est très content, Marc Marquez est remonté en selle. Il s'est fait opérer de l'épaule en décembre dernier. Il est remonté.
Très bonne nouvelle.
Il a toujours des douleurs sur les gros freinages, mais on devrait le voir dès les premiers essais du 6 au 8 en Malaisie à Sepang. On rappelle que la saison redémarre le 10 mars au Qatar. Et l'Enduropal du Touquet, c'est la plus grande course moto sur plage au monde. Ça démarre à 14h. C'est la 44e édition. On a un plateau énorme avec le vainqueur sortant, Milko Potisek, le revenant du Dakar, Adrien Van Beveren, qui a brillé notamment dans cette édition du Dakar. Nathan Watson, le Britannique. On va se régaler. De l'endurance, 3 heures, des chicanes, tout ce qu'il faut.
C'est une épreuve terrible. J'ai eu le plaisir d'y participer à deux reprises.
Là, il faut des bras.
Je ne vous dirai pas quand. Il faut plus que des bras.
Souffle
d'acier. Il y a 1000 pilotes au départ.
Tu nous raconteras ça. Soyez là. Merci Jean-Luc. Merci Lucas. Merci Benoît. 13h58. Dans un instant, l'Intégral Sport avec Christophe Sessieux sur RMC. Moi, je vous retrouve à 16h. Bonne journée à toutes et à tous.
Join Capital Group CEO Mike Gitlin for a new monthly edition of the Capital Ideas Podcast. It's your look inside one of the world's largest asset managers. Subscribe wherever you get your podcasts. Invest 30 minutes today. American Funds Distributors, Inc.